Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Vous pouvez participer à Sciences publiques en cliquant simplement sur le bouton « Envoyer un commentaire » sur notre site sur franceculture.com afin de nous faire part de vos réflexions et de vos opinions et aussi de vos questions sur notre débat d'aujourd'hui. À quoi peut bien servir un clone virtuel ? Le clonage humain est aujourd'hui considéré comme un crime contre l'humanité. Malgré cela, depuis le clonage de la brebis de Holly en 1996, la tentation est forte d'appliquer la même technique à l'homme. Heureusement, sans succès jusqu'à présent. Mais parallèlement, se développe une autre solution pour nous dédoubler, le clone virtuel. Il s'agit de créer, par exemple sur Internet, une copie de soi-même, libérée des contraintes de l'existence physique. Un clone virtuel ne dort pas, ne mange pas, ne part pas en vacances. Certes, on peut se demander à quoi il peut bien servir, et c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Un nouveau service lancé en avril sur la toile, sous le nom de MyCyberTwin, ouvre une piste originale dans la matière. L'utilisateur peut y créer un assistant virtuel dont la fonction est de dialoguer avec des visiteurs en son absence. La créature est relativement schizophrénique dans la mesure où elle sait qu'elle n'est qu'une sorte de secrétaire virtuel, tout en tentant de réagir comme le ferait son modèle. Mais au fond, il s'agit peut-être de l'attitude idéale d'un bon assistant en chair et en os. Le clone virtuel de MyCyberTwin tente ainsi de répondre aux questions des visiteurs en leur donnant des informations plus ou moins précises sur son modèle. Lors de la création de ce clone, l'utilisateur répond à 79 questions censées cerner son propre caractère, ses penchants politiques, les relations qu'il entretient avec les autres humains. Ensuite, un apprentissage plus laborieux tente de personnaliser les réponses aux questions les plus courantes de la vie quotidienne. On peut ainsi espérer disposer d'un double sur la toile, une sorte de répondeur téléphonique très sophistiqué, l'utilisateur accédant ensuite au contenu des différentes conversations que son clone numérique a menées en son absence. Cet exemple permet de concrétiser l'un des fonctionnements possibles d'un clone virtuel, mais les applications potentielles sont très nombreuses, depuis le choix d'une apparence dans le monde virtuel de Second Life jusqu'au rêve de créer un double immortel de soi-même sur la toile qui, dans 100 ans, dans 1000 ans, pourra dialoguer avec les futures générations. Tout cela est-il bien raisonnable ? Cela relève-t-il d'une véritable nouvelle possibilité d'exploiter le caractère virtuel de la toile d'Internet ? Chacun de nous disposera-t-il bientôt d'un clone virtuel, voire de plusieurs, qui nous permettront de nous dédoubler à l'infini ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences publiques Gérard Bailly, David Guèze, Franck Multon et Catherine Pellachaud. Gérard Bailly est directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Machine Parlante, agent communicant et interaction face à face au Gipsa Lab de Grenoble. David Guèze est informaticien, pionnier de la télévision sur Internet et artiste nouveaux médias. Franck Multon. Multon est directeur de... Non, il n'est pas encore, en fait. Il est maître de conférence à l'université de Rennes 2, en délégation à l'INRIA de Rennes, l'INRIA étant l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Catherine Pellachaud est professeure des universités et elle enseigne à l'IUT de Montreuil et à l'Université de Paris 8, et elle est responsable du laboratoire LINK. Alors la première question à laquelle on ne peut pas échapper, Gérard Bailly, c'est qu'est-ce qu'un clone virtuel ?
Bonjour d'abord.
Pour vous. Bonjour, oui, excusez-moi.
D'abord, moi je définirais ça comme en fait à la fois un discours et un comportement. On le voit bien dans le site que vous avez présenté. C'est essentiellement en fait un échange par texte, en fait, avec une intelligence artificielle qui se charge de bâtir un discours qui correspond au mieux à un profil de comportement langagier. Une deuxième étape sur laquelle mon équipe et mon laboratoire travaillent, c'est de donner non seulement des gages d'intelligence sur le discours, mais aussi du comportement, de l'incarnation, d'incarner l'intelligence par des gestes, par une voix, par des dimensions qui sont complémentaires aux choix lexicaux, aux choix syntaxiques qui caractérisent une personnalité.
Plus physique.
Plus physique,
et
tout à fait.
Plus uniquement intellectuel, comme dans l'exemple que j'ai cité.
Absolument. Alors bon, la petite dénomination face à face qui est dans le titre de mon équipe, c'est aussi le fait qu'on aimerait que nos agents incarnés puissent établir un véritable dialogue face à face. Donc, qui fait qu'elle soit consciente de la présence de l'usager en face donc de ce clone et échange des signaux, de l'attention mutuelle, gère un petit peu le tour de parole de la même manière qu'on le fait nous actuellement en face à face dans un même lieu physique, mais évidemment à travers la toile.
Alors Catherine Pellachaud, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, justement, vous travaillez sur une autre dimension qui est essentielle quand on parle de relations humaines, ce sont les émotions, si j'ai bien compris.
Oui, je travaille sur les émotions.
Peut-on conférer des émotions ou du moins faire en sorte qu'un clone donne l'impression d'en avoir?
On peut faire en sorte que l'agent montre des émotions. Moi, je ne parle pas de ressentir des émotions, je parle de les montrer. Donc, on peut voir sur leur comportement verbal et non-verbal, les expressions des émotions, la caractéristique gestuelle, l'expressivité d'un geste, la manière d'exécution d'un geste, peuvent être des caractéristiques des émotions.
Très bien, on y reviendra. Franck Multon, côté INRIA, donc vous travaillez dans l'informatique. Est-ce qu'on imagine bien que tout ça est purement informatique et que sans l'informatique, pas de clone virtuel? Quelle difficulté, il n'y a pas que l'informatique peut-être, mais bon, quand même essentiellement, quels sont les travaux actuels en la matière? Que fait l'INRIA en matière de création de clones? Est-ce que c'est un angle important de recherche aujourd'hui?
C'est un angle très important et ce qui est surtout intéressant dans la création des clones, c'est qu'on a besoin des autres sciences en fait. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un être humain virtuel, vous avez besoin de travailler avec des biomécaniciens pour savoir comment le mouvement se fait. Vous avez besoin de travailler avec des neurosciences pour savoir comment la perception va être, comment les gens vont percevoir votre humain virtuel. Est-ce qu'il va être perçu comme un humain ou comme une machine? Il faut être crédible. Donc, en fait, ça couvre un spectre très large de disciplines. Et l'informatique, en fait, est là pour réunir toutes ces disciplines et essayer de proposer un modèle numérique de ce que ces disciplines ont obtenu dans leurs recherches. Et donc, le problème va être de définir un personnage virtuel anthropomorphe, ou non, à la limite, mais avec lequel on puisse se comporter comme si c'était une personne réelle. Et donc là, ça fait appel, effectivement, comme je disais, à un grand nombre de disciplines. Et la complexité là-dedans, c'est de modéliser tout ça et de le mettre sous forme d'algorithme. Donc là, il y a encore beaucoup de travaux menés, entre autres à l'INRIA, pas que, pour le rendre humain.
Très bien, merci. Même question à David Guez, donc côté d'un artiste nouveau média et qui est informaticien lui-même. Qu'est-ce qu'un clone virtuel?
Oui, alors la question du clone virtuel et à quoi sert un clone virtuel. Donc la question du clone nous renvoie à la duplication, au double, à son double, à la question de la machine comme organe supplémentaire, ce qui ne m'intéresse pas de faire, finalement je vais le faire par la machine. Comme ça je pourrais rester laid ou en toute tranquillité, je pourrais rester chez moi, je pourrais dormir, je pourrais... Et puis le clone, comme ça, pourvoira mon ambition. Mais mon clone réel dans une société réelle ne va finir par converser qu'avec d'autres clones, finalement, si on pousse l'idée jusqu'au bout. Et un jour, les robots dirigeront le monde de la représentation à son plus haut point. Et puis on pourra être tranquille, on pourra être enfin des esprits... Mais lorsque ce monde réel sera au plus haut degré de sa représentation, c'est-à-dire que finalement lorsqu'il arrivera à sa plus haute position spectaculaire, sens de la société du spectacle, ce monde-là prendra le pouvoir, comme il a déjà le pouvoir, ce monde du spectacle. Donc finalement, on peut dire que les robots sont l'avenir de l'avenir, car ils représentent ce qui restera de nous après nous. Donc il n'y aura plus de guerre, il y aura des robots et des esprits humains.
Alors David Guez, bonjour.
Bonjour.
Donc vous nous avez fait un petit coup là en nous amenant avec vous aujourd'hui votre propre clone qui vient de répondre à ma question.
Mon clone d'il y a 2 heures en fait, puisque j'ai enregistré...
Un clone tout frais quoi, tout récent.
Un clone tout frais effectivement, et c'est un petit happening, mais les auditeurs peuvent déjà retrouver sur le site toute l'émission en intégralité en fait, c'est-à-dire que... J'ai déjà répondu à toutes vos questions il y a quelques heures.
Très bien, ça c'est assez pratique.
C'est pratique. Donc je peux dormir maintenant, c'est très bien. Mais...
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous prenez un petit peu de... Vous court-circuitez toutes les difficultés auxquelles nos autres invités se confrontent, puisque vous, finalement, votre clone, c'est vous-même.
Alors, mon travail, effectivement, artistique sur Internet, c'est en tout cas de développer cette idée que... Plus que la marionnette très évoluée qui va sans doute arriver un jour à sublimer l'humain et à le dépasser, comme je l'ai dit, en termes de représentativité et de spectaculaire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intime et c'est ce qu'on laisse nous dans le réseau, puisqu'on utilise de plus en plus le réseau Internet. Donc avec différents projets, dont un projet qui s'appelle Hypermoi, j'essaye de réfléchir et de mettre en place des dispositifs qui vont... aller chercher la notion de clone un peu différemment, c'est-à-dire qu'est-ce que l'intime, qu'est-ce que le moi, qu'est-ce qu'on laisse sur le réseau comme trace et comment on peut garder ces traces et créer cette mémoire qui peut se partager avec d'autres en fait.
Voilà. On va y revenir en détail parce qu'effectivement c'est une application intéressante. Gérard Bailly, qu'est-ce que vous évoque ce happening, comme disait David Guez, c'est-à-dire en fait finalement... le raccourci ultime pour la création du clone, c'est-à-dire de se reproduire à l'identique soi-même, mais sans finalement passer par ce que nous expliquait Franck Multon, c'est-à-dire cette difficile étape de la numérisation.
Ouais, écoutez, moi, ce que ça m'évoque, c'est plutôt, je dirais, une espèce de psychologie en ligne. C'est une espèce de carnet intime, médiatisé par le web, où, ma foi, la personne en question... Ben, disons, avec la technologie actuelle, laisse plutôt du SMS. Hein. On dialogue, on envoie en permanence, comme ça, une réflexion sur ce qu'on est, sur ce qu'on a envie de dire, etc. Et l'agent conversationnel, il permet petit à petit, je dirais, de dévoiler progressivement notre personnalité vers soit des gens avec lesquels on est évidemment en connexion lointaine, mais, ma foi, des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu, c'est de... Avec les agents conversationnels, on va passer du discours au comportement, de la téléprésence à une présence de plus en plus active, parce que non seulement mon expression va être de moins en moins disons limitée à un canal qui est quand même appauvri, qui est le canal textuel.
Alors justement, si David Guez n'avait pas apporté cet enregistrement. On aurait pu imaginer que je pose la question à son clone sans qu'il connaisse et qu'il ait préalablement enregistré la réponse. Est-ce que votre travail, c'est justement pas ça, d'être capable de répondre à une question de ce type automatiquement, au fond?
Ah, écoutez, bon la première, déjà c'est quelqu'un de très fort, puisqu'il répond aux questions avant qu'on les pose.
Oui, donc, ça, c'est l'anticipation.
C'est une anticipation très, très forte. Non, je pense qu'il faut distinguer l'intelligence. Hein, donc là, dans le... vous savez qu'il y a des prix, notamment le prix Loebner, etc., qui essaie d'implémenter les premiers tests de Turing pour voir si effectivement on arrive à blouser le cerveau humain.
Donc le test de Turing, en 2 mots, c'est effectivement faire passer une machine pour un être humain.
Voilà,
de ne pas pouvoir distinguer.
Est-ce qu'on est capable de différencier? C'est toute une série de tests que les machines doivent passer pour savoir s'ils sont capables de différencier, si un observateur externe est capable, par les traces qu'il laisse, bon là pour l'instant c'est des traces textuelles, donc de savoir si c'est une activité
alors
humaine
ou
une activité
artificielle. On en est où justement aujourd'hui dans ce...
On n'est pas très loin, on n'est pas très loin, très très clairement.
C'est-à-dire, il y a une échelle, il y a une façon de mesurer.
De manière générale, au bout de 5 minutes.
Voilà. Donc, c'est des notes. Hein, c'est le temps, en fait.
C'est des notes.
Qui sont liées à quoi?
C'est des mini opinion scores. On note la qualité de ce rendu, de 1 à 5. Donc là, pour l'instant, alors, c'est Rollo Carpenter qui a gagné en 2005, 2006. Le prochain événement est organisé à New York en septembre, je crois, 2007. Il a 3,5. Donc, au premier test, on dit... et alors, je vous dis tout de suite, les questions qu'on pose, ce n'est pas les questions que se pose mon interlocuteur, enfin, mon partenaire. C'est typiquement le vocabulaire, donc adjectif, verbe, etc., d'un enfant de moins de 12 ans.
D'accord.
D'accord,
donc c'est ça,
donc
le but étant de ne pas distinguer le robot,
voilà.
Donc le robot là, virtuel, de l'enfant de 12 ans.
Là, on n'est pas, pas à la chair, là, on est au discours.
Juste voilà. J'ai travaillé sur un projet pour Arte, justement sur un agent conversationnel, et j'ai utilisé l'algorithme en open source qui permet de créer des agents sur Internet. Donc,
open source, c'est-à-dire logiciel libre.
Logiciel libre. Donc on est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux recréer un logiciel qui faisait des mensonges, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus efficace de faire des prédicats sur des réponses types assez évoluées que d'utiliser ces logiciels. Enfin, on s'est aperçu en testant jusqu'au bout...
C'est la négation de l'intelligence artificielle que vous êtes expliqué.
Non, c'est un cas pratique.
Oui, Catherine Pellachaud, vous êtes d'accord avec ce constat assez négatif sur le potentiel de l'informatique pure?
Oui, moi je crois que j'ai...
Vous êtes d'accord.
Non, il y a vraiment des difficultés. D'abord parce que... faire des systèmes de dialogue, c'est très bien, mais en général, ça demande des modèles complexes. Entre autres, il faut définir ce qu'on appelle des bases de données, savoir sur quoi on va discuter. Les machines ne le savent pas. La plupart du temps, c'est de domaines très précis, très restreints. Et dès que l'on parle de mettre un corps, des expressions du visage, les tests de Turing ne marchent plus. D'accord, on a beau faire les robots au Japon, je ne sais plus le nom du laboratoire, ils font ces robots qui ressemblent vraiment
à des... Oui, on a vu ça à la télévision, effectivement.
D'accord. Dès qu'il commence à bouger, ne serait-ce que faire un mouvement de tête, très simple, un mouvement de tête, c'est fini. On se rend compte tout de suite. Donc c'est la même chose avec nos agents. Ce qui compte, c'est le comportement. Ce qui compte, c'est le contrôle de ce comportement.
En même temps, parallèlement à ces travaux d'informatique, on voit les progrès du cinéma d'animation.
Là, c'est complètement différent. Je me permets de vous interrompre.
Mais c'est pour ça que je pose la question pour nous expliquer
derrière,
la différence.
Derrière ces personnages de cinéma, il y a l'humain, un très très bon animateur avec des très très bonnes, des très bons logiciels ou des très bonnes techniques avec la capture de mouvement. D'accord. Derrière nos clones, nous on fait des modèles pour que les clones soient autonomes. Ça veut dire qu'ils vont être capables de définir quand parler, quoi dire et comment le dire. Et là, il y a un grand saut.
D'accord, voilà, le grand saut, c'est qu'effectivement, derrière le clone virtuel, il n'y a qu'un logiciel. Et qu'il doit réagir en temps réel.
Temps réel, avec les demandes de comprendre la question, savoir quoi répondre, comment répondre, s'adapter continuellement à l'autre, etc. Et c'est très, 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 très complexe.
Alors, Franck Multon, on parle là de clones en même temps, on parle surtout d'agents, c'est-à-dire de la création d'une intelligence artificielle capable de dialoguer avec une intelligence humaine. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt le clone, c'est-à-dire le transfert d'une personnalité donnée à une entité abstraite. Dans ce cas-là, quelles sont les difficultés? Et justement, vous parliez de toutes les disciplines qui sont mobilisées. Où est-ce qu'on en est dans cette direction-là?
Alors effectivement, il y a énormément de choses à faire quand on veut faire un clone virtuel qui soit convaincant. Un premier problème, c'est le rendu graphique, déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, si en face de soi, on a des cubes qui bougent, on a du mal à identifier ça comme un humain. Encore que, il y a des très très bons travaux là-dessus. Mais c'est vrai qu'on va travailler sur le rendu graphique. Donc là, le challenge à l'heure actuelle, c'est de pouvoir faire un rendu de la qualité de ce qu'on pourrait voir, par exemple, au Seigneur des Anneaux, où là, le rendu est magnifique. Mais c'est de plusieurs heures de calcul pour une image. Donc on ne peut pas se permettre quand on est en interactif. Donc un des gros challenges actuellement, c'est de pouvoir faire un beau rendu de peau, par exemple, avec des beaux plis de la peau, etc., comme les travaux qui sont faits à l'INRIA Rhône-Alpes. Pouvoir habiller avec des vêtements qui bougent, qui ont une dynamique de robe pour une femme ou de pantalon pour un homme, etc. Donc ça, là déjà, il y a un gros challenge. Et actuellement, on en est... les plus beaux exemples sont les exemples des jeux vidéo, en fait. Puisque dans les jeux vidéo, le même problème se pose. On va appuyer sur un joystick et puis on voudrait que ça réagisse tout de suite. Donc on ne peut pas faire deux heures de calcul pour une image. Donc je dirais que le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle, c'est ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Ça, c'est actuellement ce qui se fait le mieux, à peu près.
Sachant qu'il n'y a pas dans les jeux vidéo le même degré d'intelligence attendu de la part de la réaction. Souvent, c'est une réaction essentiellement physique.
Tout à fait.
C'est-à-dire dans le jeu, c'est un pilotage, en fait, plus que...
Tout à fait.
Quoi qu'il y a, il commence à y avoir de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. C'est-à-dire les équipes de jeux vidéo commencent à mettre en place des intelligences artificielles.
C'est le secteur qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux. Donc tout ce qui est jeu éducatif, tout ce qui est jeu de réflexion d'une manière générale, qui sollicite de la part de l'usager le maintien de l'attention, et on utilise le clone justement pour créer ce rapport dual entre deux êtres.
Franck Mouton, là, effectivement, dans le jeu vidéo, il y a une projection du joueur, en fait.
Tout à fait.
Qui utilise une forme de clone de lui-même à l'intérieur du jeu.
Oui, et ce clone, en fait, donc, au-delà du rendu, qui est le point qu'on faisait tout à l'heure, il y a aussi le problème du mouvement. Donc, il faut que ce mouvement soit crédible, qu'il réponde aux ordres de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on souhaite courir à une certaine vitesse dans une direction donnée. Dans un environnement partagé virtuel comme Second Life, on souhaite se déplacer pour aller dans un magasin acheter quelque chose. Il ne faut surtout pas que le personnage soit raide et puis se translate en glissant sur le sol comme sur un tapis roulant. Donc là, il y a des problèmes aussi de modélisation du mouvement. Et ce mouvement, comme les travaux de Catherine s'intéressent là-dessus, c'est il faut aussi qu'il y ait de l'émotion dans le mouvement. Si on va effectivement sortir d'une visite médicale où il y a une mauvaise nouvelle, ben on a envie de voir un mouvement qui n'est pas tout à fait le même qu'un mouvement lorsqu'on vient d'apprendre une bonne nouvelle, une bonne réussite au bac, par exemple. Donc on a envie que ce mouvement soit porteur de sens aussi. Et ça, c'est vraiment important. Et là, il y a des grands défis encore de nos jours à apporter là-dessus. Beaucoup de personnes utilisent les systèmes de capture de mouvement, qui consistent à mesurer le mouvement en trois dimensions, avec un système de multicaméra. Et reproduire le mouvement sur une entité virtuelle, ça, on sait faire. Ça pose des petits challenges encore de nos jours. Le problème maintenant, c'est l'adapter à la morphologie du clone. Parce que si je frappe dans mes mains et que je demande à quelqu'un qui a des avant-bras plus longs de reproduire mes mêmes angles, ben, je ne vais plus frapper dans mes mains, les mains vont se croiser, ne vont pas se toucher. Il y a des problèmes de géométrie et il faut résoudre tout ça.
Donc la virtualité, effectivement, ne se laisse pas faire facilement.
C'est très complexe.
Catherine Pélachaud, quand on parle de numérisation, en gros, des émotions, c'est un peu ça, puisqu'il faut passer de l'état des émotions ressenties par l'être humain à leur équivalent algorithmique, donc informatique. Quelles sont les difficultés ?
Là, elles sont à plusieurs niveaux. Donc, il va falloir, si on parle dans un système d'interface, une machine, on va pouvoir peut-être demander à détecter les émotions. Mais là, évidemment, savoir si c'est faisable, si c'est éthiquement faisable, et si on est capable de le faire, de déterminer.
Et de détecter comment ?
Ou bien par la voix, par les expressions faciales, ou bien par des modèles mentaux de l'agent. De l'utilisateur, détecter, faire un modèle pour savoir imaginer s'il va être frustré dans certains cas ou plutôt satisfait, et autres. Et ensuite, il va falloir aussi avoir des... Donc, lorsqu'on interagit, il y a toujours des émotions qui surgissent entre les participants. Donc, pouvoir déterminer quelles sont les émotions que va pouvoir avoir l'agent et comment les transmettre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le faire avec les expressions du visage de l'agent, mais aussi avec sa manière de faire. Donc, ça va être des mouvements qui vont être peut-être plus près du cours, du corps, qui vont être faits plus lentement, ou au contraire, avec une énorme vitesse, une énorme accélération pour d'autres émotions.
Parce que dans le dialogue, finalement, auquel on aspire entre une entité virtuelle et puis un être humain, il faut à la fois que le clone soit capable d'exprimer ses émotions, mais aussi qu'il soit capable de capter celles de son interlocuteur.
Oui.
Ce qui fait d'une certaine façon une double difficulté, même si elles se rejoignent un petit peu.
Oui. Donc en général, il y a plusieurs approches pour le faire. Donc il va y avoir parfois une approche qui est purement d'analyse des signaux et de leur interprétation. Mais aussi, on peut essayer de voir, faire une interprétation plus mentale des émotions que. Suivant les comportements et les dires de l'utilisateur, essayer de déterminer son état émotionnel. Et à partir de là, avoir un modèle qui permette à l'agent de réagir émotionnellement.
Comment vous diriez, comment vous expliqueriez le point où on en est aujourd'hui dans cette démarche qui vise à maîtriser un petit peu informatiquement les émotions ?
Donc là, il y a énormément de monde qui travaille là-dessus. On fait partie d'un projet européen qui s'appelle Humaine, qui porte seulement sur les émotions, qui touche tous les domaines, à partir de théorie, jusqu'à partie informatique, neurosciences et autres. Je pense qu'on en est encore très loin. Quand on parle de déterminer les émotions des usagers, ça fait souvent très peur, mais il faut voir que les travaux, pour l'instant, détectent très, très peu d'émotions. C'est souvent des prototypes d'émotions. De même que pour les montrer, on en est encore aussi très loin d'avoir la richesse des expressions humaines.
On ne peut pas caractériser en fait le niveau où on en est. On est, je ne sais pas, sur une échelle, comme vous disiez tout à l'heure.
On en est encore au balbutiement, je pense.
Au balbutiement. Gérard Bailly.
Mais je crois que, je veux dire, ce qui se dégage quand même de tout ça, c'est l'intérêt de l'étude du modèle humain. Que ça soit pour le dialogue, le discours, les chatterbox, ils sont basés sur des bases de données où des gens ont fait des dons cognitifs. C'est-à-dire qu'on a, il y a des gens qui ont interagi avec des pseudo-robots et on a mémorisé leurs réponses. Et ce qu'on vous restitue, c'est une partie de leurs réponses. On va simplement sélectionner dans une énorme base de données la réponse donnée par un humain qui est la plus plausible par rapport à la question qu'on a posée au robot.
Et c'est la même chose. On se rapproche un peu de ce que fait David.
Et la même chose pour le comportement humain. Hein. Je voulais souligner l'importance, par exemple, des neurosciences. On a découvert, et ça, enfin, ça date il y a 2-3 ans, l'existence de neurones qu'on appelle miroirs, qu'on pense être la base de l'apprentissage humain, qui sont capables de réagir à la fois à la vision d'un geste et à l'exécution du geste par la personne qui l'a vu. D'accord ? Mais quand cette exécution de geste est produite par une main artificielle, par un agent artificiel, ça ne se déclenche pas. C'est très difficile, comme l'a souligné Catherine, de tromper. Voilà, c'est les mots qui me viennent en anglais, c'est terrible. De tromper le cerveau humain. Alors, que ça soit au niveau interprétatif, au niveau du contenu, mais aussi de l'apparence, du mouvement, du geste, etc.
Pour ça, c'est plutôt rassurant, d'une certaine façon, si on prend le problème à l'envers.
Absolument.
Qu'on soit difficile à tromper ou à leurrer de cette façon.
Ça veut dire aussi que de nous, si vous voulez, dialoguer avec ces agents bizarres sollicite des circuits neuronaux qu'il va falloir mettre en place et qui vont soit prendre la place de circuits existants, soit réduire nos autres capacités cognitives. Donc il faut aussi se méfier.
Franck Multon, plus raisonnablement, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir comme clone fonctionnant, enfin, à quel niveau il faut descendre finalement, puisqu'on n'arrive pas, visiblement, là, le tour de table est assez critique là-dessus, montre à quel point on est encore loin de la perfection, donc il va falloir faire avec ce qu'on a.
Alors, en fait, il y a un paradoxe quelque part, c'est que quand on demande à des gens, on a fait des expériences en réalité virtuelle où les gens devaient interagir avec des clones, et quand on leur demande est-ce que c'était quelqu'un de vrai qui était en face de vous, ils répondent non, c'était pas quelqu'un de vrai. Par contre, quand on analyse leur réaction, ils ont réagi comme avec quelqu'un de vrai. Et ça, c'est le point important, c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que même si, effectivement, ils savent bien qu'en face d'eux, c'est un clone, que c'est pas quelque chose de réel, qu'il n'y a pas un humain derrière, qu'au moins, ils réagissent correctement. Et ça, c'est vital pour un nombre d'applications considérables. On a fait un travail, par exemple, en sport, en handball, où on avait un gardien de handball réel qui devait arrêter des tirs tirés par des tireurs virtuels. Et quand on demande au gardien est-ce que c'était un match réel, il dit évidemment non. Par contre, quand on analyse finement les mouvements du gardien, il a reproduit exactement les mêmes mouvements quand il avait affaire à un vrai gardien, un vrai tireur. Et donc là, quelque part, si on veut entraîner le gardien de but, et reproduire la relation gardien-tireur, ça marche, même s'il a bien compris que c'était pas un vrai gardien, un vrai tireur.
D'accord.
En face.
L'illusion n'est pas absolument nécessaire. Catherine Pellachon.
Oui, je voulais rajouter aussi quelques commentaires là-dessus. Donc ça, c'est absolument vrai que les agents, dès qu'on interagit avec eux, on leur applique certaines qualités humaines. Il y a beaucoup d'études d'études classiques.
Des transferts.
Une sorte de transfert de Reeves and Nass, Media Equation, qui en parle. Et donc, il faut absolument doter nos agents de capacités sociales, d'avoir d'être capable d'interagir avec l'autre.
Mais quoi de plus qu'une poupée gonflable, finalement ? Enfin, si on y réfléchit bien...
C'est l'opposé d'une poupée gonflable, ce qu'on essaie de faire.
On est quand même... Enfin, je fais un peu l'avocat du diable. Hein.
Allez-y.
On est quand même face au principe d'une marionnette, c'est-à-dire qui est sophistiquée, certes, qui a des degrés de réponse plus ou moins forts, mais on reste quand même... On est très, très loin de l'humain, moi, je trouve. Enfin, ces recherches sont très intéressantes et elles mèneront sans doute à quelque chose au final dans quelques centaines d'années, mais il y a vraiment qu'un gardien de handball réagit à un tireur qui lui tire des balles, de toute façon c'est déjà vrai au tennis avec les machines qui lancent des balles. Je vois pas tellement l'intérêt en fait. Je comprends alors, pas trop en quoi c'est plus que des machines.
Qui veut répondre, oui. Franck Multon.
Oui, sur l'intérêt, c'est simplement, d'un point de vue scientifique, sur le handball, prenons l'exemple du handball, si vous voulez savoir comment un gardien perçoit son environnement et comment il décide d'une parade, si vous le faites en vrai, vous pouvez demander à un vrai tireur de faire 10 fois le même tir et puis d'examiner la réaction du gardien. Mais vous n'arriverez pas à avoir 10 fois le même tir, 10 fois la même situation. C'est absolument impossible. Donc, en fait, dans ce cas-là, le clone se place comme un outil scientifique qui va permettre de reproduire des situations exactes, contrôlées. On veut modifier de 5 cm la position du tir, on y arrive et on peut analyser. Donc, comme outil scientifique pour aider les autres domaines scientifiques de simulation, c'est un superbe outil. Et on est à l'heure actuelle avec des outils totalement mûrs pour faire ça.
À quoi peut
sur la poupée gonflable non plus.
Attendez un instant. Excusez-moi, la poupée gonflable s'installe très fortement dans cette émission, alors qu'elle n'était pas prévue au départ. La question étant, à quoi peut servir un clone virtuel? Le thème donc de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques. Nos invités sont Gérard Bailly, David Guez et son clone, Franck Multon et Catherine Pellachaud. Gérard Bailly est directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe machine parlante, agent communication et interaction face à face au GIPSA Lab de Grenoble. David Guez est informaticien, pionnier de la télévision sur Internet, artiste nouveau média. Franck Multon est pas encore donc directeur de recherche, mais maître de conférence à l'université de Rennes 2 en délégation à l'INRIA de Rennes. Et Catherine Pellachaud est professeure des universités. Elle enseigne à l'IUT de Montreuil et à l'université de Paris 8 où elle est responsable du laboratoire LINK. Alors le débat effectivement commence à être un peu vif parce que il y a une divergence en réalité sur les usages que l'on peut faire des clones tels que la technologie permet de les réaliser aujourd'hui. Il est effectif que on a fait dans cette première partie d'émission le constat que les moyens sont encore limités. Franck Multon nous donnait un premier exemple d'application effectivement proche de la simulation et qui peut effectivement donner beaucoup d'applications différentes. Gérard Bailly, quelles sont les applications qui pour vous sont les plus riches aujourd'hui et surtout parmi celles auxquelles on peut accéder, non pas uniquement celles qu'on peut fantasmer?
Bon, d'abord, vous aviez introduit le débat par cette idée d'assistant personnel qui est capable de nous télé-représenter dans le web, hein. Donc là, il y a effectivement cet aspect de plus ou moins laisser transparaître votre personnalité dans des environnements virtuels. Au-delà donc de tout ça, il y a évidemment tout ce qui est en termes de maintien de la personnalité, hein, donc de la variabilité de nos comportements, etc. Il y a des choses qui nous touchent très très d'une manière assez forte, qui peut être tout ce qui est essayage virtuel. Hein, les sociétés de vente par correspondance sont intéressées évidemment de pouvoir habiller un clone de vous-même par du maquillage virtuel, des vêtements virtuels, des cheveux virtuels, etc. Vous voyez un peu il y a tout ce qui est aspect santé. Planification chirurgicale, fonctionnelle ou esthétique, hein, où le chirurgien va travailler sur un clone de vous-même en attendant de vous charcuter, et puis peut-être passer contrat en disant « Bon, écoutez, est-ce que vous êtes satisfait du résultat ?» Il y a tout ce qui est pour
tester
nous...
tester sur le clone avant.
Voilà, oui, ça serait... ça
qui est effectivement souhaitable.
Voilà, tout à fait souhaitable, on ne sait pas, enfin en tout cas intéressant. Comme mon laboratoire travaille, enfin je travaille depuis quand même quelques années sur la parole, il y a tous ces aspects d'apprentissage, de rééducation motrice, tout ce qui est apprentissage des langues étrangères, etc. Si vous avez un clone de vous-même, l'apprenant peut avoir son clone en fait comme exemple. Et donc, petit à petit, essayer de s'ajuster à des prononciations correctes ou à des langues inconnues. Dernière application assez extraordinaire qui est développée à l'Institut de sciences cognitives de Lyon, c'est tout ce qui est mécanisme de membres fantômes. Lorsque des gens ont des membres amputés, On sait que de le recoller en fait de manière virtuelle un membre qui est pour l'instant une copie de l'autre membre, donc copie le membre droit sur le membre gauche, etc. Mais on peut imaginer que on puisse en réalité virtuelle réparer en fait la personne et que cette réparation en fait la perception de cette réparation soit un moyen de soigner l'handicap.
Il y a un effet psychologique de la représentation de soi-même, du membre.
Voilà, qui est en rapport aux sensations qu'on a connues, et à l'unicité du corps qu'on a vécu.
Vous comprenez pourquoi l'art, du coup, est très intéressant, puisque il crée de la représentation, l'art. Donc, on est constamment sur ces modèles de représentation de nous-mêmes, ou d'une idée, ou d'un concept, en fait.
Franck Multon, d'autres applications que la simulation qui est, bon, c'est intéressant, mais en même temps, ça paraît limité.
Oui. Alors, des applications...
Par rapport à l'ambition initiale, je veux dire, de se cloner, imagine assez proche de soi.
Alors, d'autres applications qui tournent hein, actuellement, ça marche, dans les grandes sociétés type EADS, Dassault Systèmes, Renault, etc. C'est, comme on travaille de plus en plus avec des maquettes numériques, c'est-à-dire quand on crée un véhicule, on ne va pas créer un véhicule matériellement, on va le créer numériquement.
Enfin, on le crée, mais après.
On le crée après. Ouais. D'abord, on crée le prototype numérique, effectivement, et on va vouloir tester son habitabilité. Est-ce qu'un véhicule est bien conçu? Est-ce que le levier de vitesse est bien placé, etc. Mais quand on crée des véhicules, des maquettes en vrai, bon, on mettait les sujets dedans. Bon, maintenant, elles sont numériques. Comment peut-on faire? Eh bien, il faut cloner effectivement des sujets, les positionner dans ces différents habitacles, ces cockpits, et puis regarder si c'est viable comme habitacle. Et une fois qu'on a passé cette étape, on peut passer à la maquette réelle. Donc ça, c'est une application qui tourne vraiment bien. D'autres choses aussi, c'est pour tout ce qui est formation à la maintenance, par exemple de matériel dangereux ou très coûteux. Vous devez intervenir dans une centrale nucléaire, bon, il faut former les gens. Évidemment, on ne va pas faire un accident nucléaire exprès pour pouvoir former les gens. Donc on va le mettre en environnement virtuel avec son clone. Et puis, il y a un très bel exemple au CEA où la personne, en fait, l'opérateur doit regarder une partie où il y a de la radioactivité. Et on mesure en virtuel, en temps réel, à quel point il s'expose en faisant ce type de manipulation. Ça peut être aussi d'insérer un câble dans une portière de porte, dans une portière de voiture type Renault, regarder si effectivement la portière qu'on a conçue permet de faire passer le câble ou pas. Est-ce qu'un opérateur y arrivera? Et donc là, on met l'opérateur en situation avec son clone. Ça, ce sont vraiment des applications industrielles. Et pour rejoindre mon collègue artiste, il y a aussi un grand nombre d'applications artistiques. Là, je pense qu'il en sait plus que moi, mais j'en ai une belle en mémoire. Celle de, par exemple, des Corsino en chorégraphie qui ont, avec la chorégraphie Danse avec Lou, qui était au Centre Pompidou pendant un certain temps, avoir en fait des danseuses virtuelles et que le public puisse interagir avec. Donc cette fois-ci, c'est la danseuse qui est clonée. Et le public vient interagir avec. Ça marche.
De façon assez quand même limitée, si oui. par expérience. Catherine Pellachaud, des applications où finalement les émotions interviennent. Une des plus anciennes finalement, si on se réfère un peu à l'histoire, c'est peut-être le Minitel Rose, dans lequel il y avait déjà des agents qui se faisaient passer pour des personnes qu'elles n'étaient pas, puisqu'elles étaient purement informatiques, et qui tentaient de maintenir, elles faisaient le test de Turing en temps réel et de façon assez financière, puisqu'elles essayaient de maintenir le visiteur le plus longtemps possible dans l'illusion qu'il parlait à quelqu'un de réel.
Oui, donc là, on ne parlait plus de clones, mais en fin de compte, ce qu'on appelle les agents conversationnels animés. D'accord. Donc, ce sont des agents
qui étaient, dans ce cas-là, le clone de quelqu'un qui, effectivement, ouais, n'existait pas, mais qu'elle était censée représenter.
Oui, exactement. Donc, dans ce cas-là, il y a plusieurs applications que l'on voit. Il y en a, si vous parlez avec des industriels tels que la Cantosh ou Hassan Angel, ils vont vous parler d'applications sur le web. Donc, les agents vont dialoguer avec des usagers pour obtenir des informations. Oui, il y en a sur le site France Télécom, d'EDF, enfin, il y a sur plein de sites maintenant, ces petits agents-là.
Oui, qui sont très statiques. Si
ils commencent à bouger un petit peu.
C'est plus une photo qu'un agent conversationnel. Et...
Là, il y a une difficulté, ça je reviendrai après, c'est que ces agents savent parler mais ne savent pas écouter.
D'accord. Ah, ça c'est tant mieux.
Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Enfin,
oui, c'est assez réaliste.
Pas tous, mais... Donc... Là, ces petits agents vont être souvent utilisés donc, pour les services web. On va aussi en voir, c'est la Cantoche qui en parlait, dernière réunion à Humaine, sur son portable. de plus en plus. Ça peut être notre propre avatar ou bien une entité autonome avec qui on aime dialoguer. Il va y avoir des applications peut-être moins ludiques, telles que ce qu'on appelle les agents pédagogiques. C'est le Adibou, mais en plus autonome, un peu plus intelligent, d'accord, qui s'adapte aux enfants, qui s'adapte à l'étudiant, qui peuvent le favoriser à répondre, avoir des émotions plus plaisantes, plus aptes, qui l'amènent plus apte à réfléchir.
Plus interactif aussi.
Oui.
Mais par exemple, on a vu, en matière de succès de ces représentations virtuelles, on a vu apparaître dès l'an 2000, le 19 avril pour être précis, une animatrice, la première animatrice virtuelle qui s'appelait, un très joli nom, de Anna Nova, sur la chaîne Nova, et qui présentait des informations. Et donc là, tout le travail était de rentrer réaliste sa prononciation, la façon qu'elle avait d'être vivante, entre guillemets, le plus possible. Et on en a très peu de nouvelles. Et en plus, elle a fait très peu de petits, si je puis dire.
Oui, parce que ce qu'elle n'avait pas, c'était une compréhension sémantique. C'est-à-dire qu'elle était capable de bouger, mais de manière complètement aléatoire. Elle avait un très beau sourire, très beaux yeux. Mais ça s'arrêtait là.
Donc elle ne faisait pas de différence entre les nouvelles.
Non, elle était incapable.
L'émotion de chaque nouvelle.
Elle était incapable de la voir. Donc là, c'est sur quoi on travaille. D'accord, c'est vraiment essayer de rajouter ces connaissances, cette compréhension.
Marqué, des fois, les présentateurs de télévision, on a un peu de mal à savoir s'ils comprennent bien ce qu'ils disent et s'ils ont la bonne attitude. Gérard Bailly.
Donc, c'était juste pour mentionner, pour aller pour continuer un petit peu ce dont parlait Catherine, c'est le fait qu'effectivement ces agents conversationnels pour l'instant n'ont pas ni de regard ni d'oreille, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas dans quel environnement leur message est diffusé. Et ça a des incidences. On pensait à Manova. Quand on est face à face avec quelqu'un, on évite de. Il y a des choses qu'on évite de regarder, surtout quand on a une jolie fille en face de soi. Sinon, on ramasse très rapidement une claque. C'est sûrement pas le cas quand la Manova, on la regarde sur la télé. Il y a sûrement des détails qui doivent nous échapper parce qu'il y a un certain nombre d'autres aspects qui nous intéressent. Donc le fait d'être en face
et
à face,
très 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 visage.
Voilà, oui, très très voilà. Donc si vous voulez, l'enjeu en tout cas pour mon groupe et pour je pense pour le futur, on n'a pas parlé des robots anthropoïdes, mais qui sont très présents dans la communauté japonaise, qui petit à petit, enfin il y a un certain nombre de projets tantôt au niveau national qu'au niveau européen qui ont bénéficié de ce maintien de l'activité robotique en tout cas outre-Atlantique. L'enjeu, c'est maintenant, à mon avis, c'est que ces AK, ces agents conversationnels animés, plutôt qu'on rentre en fait, c'est intéressant de rentrer dans leur monde, d'avoir un clone de soi-même qui navigue dans des univers virtuels. Mon challenge, peut-être un challenge d'avenir, enfin j'espère, c'est de les amener dans le monde réel. C'est aussi qu'ils se rendent compte qu'il y a un environnement physique, qu'il y a un environnement d'interaction. Et qu'ils donnent des gages de cette connaissance. Et alors, on mentionnait un certain nombre d'applications. Une des applications qui me semble intéressante dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est agent conversationnel qui assiste des gens à domicile. Donc, ils vont surveiller les gamins, qui vont rassurer les gamins, parce que vous savez, les gamins restent de plus en plus tout seuls à la maison, même de plus en plus jeunes, rassurer aussi les personnes âgées, qui sont de plus en plus seules à la maison. Donc, on peut imaginer des agents conversationnels, à l'image de vous-même, à l'image de personnes.
Babysitter virtuelle.
Voilà, une babysitter virtuelle, mais qui soit capable de savoir ce qui se passe dans la maison, de savoir que l'enfant est en train de pleurer ou que la grand-mère a chuté ou qu'il y a des difficultés qu'il y a, et rendre les services, rassurer, téléphoner s'il faut avoir du secours, etc. Donc cette mise en fait en situation réforme un petit peu aussi l'informatique. C'est-à-dire que pour l'instant, nos terminaux, ils ont des facultés de communiquer avec nous qui sont de plus en plus enrichies, mais on reste encore plugué avec notre clavier, comment entrer à notre clavier et notre souris. Et on espère que dans un futur proche, il y aura des caméras, des oculomètres. La manière où un oculomètre, ça permet à un ordinateur de savoir où est-ce qu'on regarde sur l'écran. Donc ça lui permet de savoir où est notre attention, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui nous intéresse dans la scène qu'il nous propose, etc. Des caméras, évidemment des microphones, mais qui soient branchés et qui soient utilisés par le clone, de manière à avoir une image de ce qui se passe et l'impact qu'il a dans la scène quand il quand, voilà. quand il intervient.
Et là, je pense que ça passionnera les sociétés de surveillance, par exemple. David Guèze, vous avez, comme on l'a vu dès le début de cette émission, un peu court-circuité toutes ces difficultés. Quel est votre projet, puisqu'il a quand même un lien avec Internet, que c'est sur la toile que vous proposez différents, on peut dire, services, d'une certaine façon, comme le mail dans le futur, qui en soi est une façon de se virtualiser.
Bien sûr, on parlait de fantôme tout à l'heure. Effectivement, un fantôme en soi, c'est un clone de soi-même en un temps différé ou en un espace différé. Donc je crois qu'avec Internet, en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est que Internet, on puisse ne pas le prendre qu'au pied de la lettre et que dans le temps réel, ce qu'il est aussi, mais c'est un peu de travailler sur les notions de temps, d'espace et aussi de communauté. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on puisse dialoguer avec l'autre autrement, via Internet ou avec les autres. Alors c'est vrai que l'agent conversationnel, typiquement, c'est un outil qui permet à une entreprise ou à un site web de présenter les qualités du site, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain et c'est les qualités humaines et le développement d'une intelligence. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, je veux pas trop employer ce terme-là parce que il est l'objet de tous les fantasmes et il veut pas dire grand-chose encore pour l'instant.
Vous, c'est plutôt le transfert de l'intelligence humaine telle qu'elle est sur la toile, plutôt que de recréer complètement une autre intelligence autonome.
Bien sûr, disons que nous sommes composés nous sommes une conscience vivante, nous sommes un esprit et nous sommes composés de plein de choses, dont des souvenirs et des désirs, en fait. Voilà, moi, donc je prends plutôt ce biais-là, les souvenirs et le désir. Et ce que j'essaie de mettre en place avec l'hypermoi, c'est un outil qui permet de poser ses désirs et ses souvenirs et de les mettre en relation avec les autres. Alors dans le temps, effectivement, plus on entre dans les bases de données de ce projet, ses désirs et ses souvenirs, plus les interactions vont se créer avec les autres de façon un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, un peu amusante aussi. Et laisser surtout derrière nous cette trace de cette mémoire qui ne serait pas une mémoire plate, mais une mémoire dynamique un peu, donc éventuellement notre fantôme. Donc si vous voulez, c'est pas tant l'aspect physique qui m'intéresse, mais c'est tout ce que nous pouvons enrichir pendant notre présent pour laisser derrière nous un clone de nous-mêmes, en fait.
Catherine Pellachaud.
Oui, je voudrais rebondir là-dessus, parce que je pense qu'il y a une chose sur laquelle on est vraiment encore très très loin, c'est d'avoir des interactions longues, à long terme avec les agents. Ouais. Pour l'instant, toutes les applications qu'on a données, c'est des applications. On dialogue, il y a 2-3 échanges et ça s'arrête parce que les agents sont ennuyeux. D'accord, ils ont encore été très très difficiles.
En plus, ils se souviennent pas forcément des interactions précédentes.
Voilà, ils n'ont pas de souvenirs, ils n'ont pas de mémoire, ils ont peu de connaissances, etc. Donc c'est comment leur donner tout ce passé, comment les faire même vieillir avec nous. Après tout, si ça devient des compagnons, on parle maintenant d'agents compagnons, il faut qu'ils puissent évoluer aussi dans le temps. Il faut qu'ils puissent grandir, il faut qu'ils puissent acquérir de l'expérience et comment le transmettre.
Mais c'est pour ça que je pense que ces agents-là sont plus... Enfin, là, on parle beaucoup d'interface en réalité, puisque c'est bien ces modes d'interface qui permettent d'échanger. Alors, il faut que derrière, il y ait des choses. Alors, c'est vrai qu'un programme sophistiqué qui va se baser sur des modèles, sur des modélisations, va arriver à certaines choses, mais quand même, ce qui est, enfin, c'est nous les humains vivants qui sommes les plus riches dans cette information, dans ce développement.
Tout dépend de l'objectif qu'on a.
Il faut quand même pas oublier, le concept un peu central de notre discussion, enfin du concept de DACA, donc agent conversationnel animé ou incarné, c'est ce concept d'incarnation de l'intelligence. Et je pense que, pour rebondir sur ce que tu racontais, il n'y a pas d'intelligence qui ne passe pas d'abord par les sens. Hein, c'est l'erreur de Descartes, hein, un bouquin qui est très connu pour les gens qui font des émotions. Notre capacité à penser le monde, elle est fortement liée à notre expérience quotidienne. Tout passe par les sens. L'émotion passe par les sens. Notre manière de mémoriser, d'avoir même des activités sociales, de prendre des décisions assez importantes dans notre vie quotidienne, réagir lors d'un interview, ici, là, actuellement, voir un petit peu la réaction de mon discours dans vos yeux, ça conditionne la manière dont j'enchaîne mon discours. Et je pense que vraiment, j'insiste encore une fois, cette analyse de scène, cette manière de percevoir physiquement le monde dans lequel on vit, on vit dans un monde qui est particulier.
Vous parlez quand même de perception physique, donc d'un clone
virtuel.
Tout à fait.
Moi, je pense que, comme un être humain n'est pas une espèce de... On a donné au cerveau une importance phénoménale pour ce qui est de l'intelligence humaine, tout passe par l'essence.
C'est bien le problème de l'intelligence artificielle qui a été posé depuis 50 ans, qui bloque parce qu'il n'y a pas de sens.
On a trouvé un nouveau terme pour intelligence artificielle, maintenant c'est intelligence ambiante.
Oh là.
Et c'est, on conserve IA, hein, et je vous rassure tout de suite.
Franck Multon, est-ce que la difficulté, elle n'est pas justement d'arriver à transformer en logiciel, ou du moins à comprendre à l'aide d'un logiciel, toutes ces informations qui vont être captées du monde physique? Parce que là, effectivement, si on fonctionne dans ce sens-là, à la limite, la difficulté est encore plus grande, parce qu'il va falloir que l'avatar, le clone, etc., ait une conscience de notre propre monde à nous.
Alors, tout à fait, c'est une des grosses, aussi encore un autre gros enjeu actuel, c'est de définir les bonnes interfaces, parce que ça va se traduire par des interfaces. De plus en plus, on voit fleurir en réalité virtuelle des interfaces qui vont même jusqu'aux odeurs. Il y a énormément de progrès là-dessus. Ça reste des travaux généralement ponctuels. Il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de solution commerciale tout de suite prête. Ça reste de la recherche. Malgré tout, on voit une évolution dans les produits. Si on regarde les consoles de jeux vidéo, par exemple, qui font intervenir des clones aussi, hein, si on regarde les nouvelles consoles, type la Wii de Nintendo, et même la PlayStation 3, on voit apparaître des nouvelles interfaces, des nouveaux organes pour communiquer avec ce monde virtuel. Qui permettent
la Wii étant une interface où les gestes peuvent être faits de façon très réaliste, puisqu'on peut bouger, d'ailleurs, ce qui a provoqué beaucoup d'accidents, du fait des mouvements très réalistes qu'on pratique avec cette interface-là. David Guaise, est-ce que finalement le problème de l'interface est très important pour vous?
Je trouve que de toute façon. Le problème de l'interface est essentiel, puisque d'une façon ou d'une autre, qu'il passe par le texte, la voix, la 3D...
Non, mais je veux dire, par l'interface, je parle de la représentation, finalement, d'un clone sous une forme animée, anthropomorphique un petit peu, c'est-à-dire qui ressemble à un homme, mais qui n'en est pas un. Vous, quand vous proposez un service comme celui du mail dans le futur, dont on peut dire un mot, c'est-à-dire en gros envoyer des mails avec un décalage dans le temps qui fait que ces mails arriveront dans 10, 20, ou 30 ans ou 50 ans, vous créez de facto une existence dans le futur, mais qui n'a pas besoin de représentation.
Tout à fait, puisque de toute façon, la représentation, elle existe dans notre esprit. Je veux dire, simplement pour parler du rêve, déjà, nous sommes dans le rêve, nous sommes dans un mode de représentation visuelle, invisible, où nous existons pendant un instant. Donc je pense que le désir, c'est ce que j'appelle le désir, que ce soit la vue d'une image, d'un texte, etc., c'est déjà des représentations. Et instancier du désir, donner du désir à l'autre, c'est mettre en place dans son cerveau un modèle de représentation qui peut être prédictif ou pas. Enfin, après, on fonctionne sur la question du prédictif, qui est, je crois, le truc essentiel en intelligence artificielle. C'est on fonctionne par prédiction et par hypothèse. Et c'est la grande difficulté, je crois, de ce qui se passe aujourd'hui dans les processus comme ça de robots automatisés. C'est-à-dire que nous, on fonctionne sur le modèle prédictif. Et ça, à mettre en place, à simuler, c'est compliqué, du coup.
Catherine Pellachaud, on voit quand même que des représentations extrêmement frustres, comme par exemple le fameux robot Aibo, donc qui a été retiré du marché, mais qui a eu quand même un gros succès pendant qu'il a été vendu, lui ressemble assez peu à un chien. Il a pas de poids. Alors d'ailleurs, Sony avait étudié cette question, mais il crée une empathie très forte avec les gens qui l'utilisent. Alors que ses moyens de communication, sa perception de l'environnement existent, mais sont limités.
Beaucoup de capteurs.
Il y a beaucoup de capteurs, certes. De capteurs. Mais là, ça permet d'essayer de peut-être mesurer à quel point un être artificiel peut interagir et satisfaire aussi l'utilisateur.
Mais là, je pense que ça soulève la question de... Il ne faut pas forcément avoir du très grand réalisme pour créer de l'empathie ou pour créer une relation.
Quel est le déclic?
Là, je pense que c'est plutôt l'adaptation du robot. Il réagit, il avait des petites lumières, il pouvait bouger, il pouvait venir vers vous, etc.
Il réagit en fonction de quelque chose.
En fonction, oui, des signaux qui sont captés. Donc, hein. Et donc c'était ça l'intelligence de l'AIBO. C'est cette manière d'engager une sorte de communication avec vous. Peu importe le réalisme dans ces cas-là. D'accord.
Gérard Bailly, c'est bien ce que vous vouliez dire par cette nécessité.
Oui, je sais bien qu'on y arrive. Non,
on y arrive, mais il faut le temps.
Oui, bah, oui, bien sûr, évidemment. Oui,
pas des heures non plus.
Non, mais je pense que, si vous voulez, il y a Je pense qu'une des richesses, c'est des choses qu'avait bien compris Rodney Brooks au MIT il y a quand même plusieurs dizaines d'années, c'est que construire un robot qui soit capable de remplir, en fait, d'opérer dans notre monde à nous, il faut recourir à l'intelligence artificielle le moins possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues à un niveau assez bas. Hein, marcher, conduire, hélas, hein, conduire, vous savez très bien que les espèces d'absence qui fait qu'on arrive à rouler sur une autoroute pendant 10 à 20 km.
À contresens.
Oui, à contresens, mais enfin, ça arrive. Là, il y a des raisons physiologiques aussi. Non, mais qu'on arrive à avoir un monitoring, un automatisme comme ça qui est extrêmement bas niveau, qui est une espèce de boucle d'interaction entre nos capacités sensorielles et nos activités motrices, sans qu'un niveau de conscience extrêmement élevé intervienne dans cette boucle-là. Donc, si vous voulez, à mon avis, il y a des problématiques de traitement du signal et de traitement de l'image, donc d'analyse de scène, des problématiques, comme l'a évoqué, de synthèse de scène, comme l'ont évoqué mon collègue Multon, donc de réalisme dans les animations. Et puis il y a ces couplages entre les deux qui paraît fondamental. Hein, cet automatisme, cette boucle de perception-action qu'on doit étudier à différents niveaux, très réactifs. Hein, vous regardez quelque part, je suis votre regard. Et donc, je montre que je m'intéresse à vous. Et ça, c'est fondamental, ce qu'on attend d'une manière fondamentale des ACA. Tout ce qui est gestion du tour de parole, etc. Et puis, des fonctions sociales de plus haut niveau. Donc, voilà, je suis dans le bon laboratoire, GIPSA. Parole, synthèse de parole, analyse de scène, automatique.
Alors Catherine Pellachaud est très très en colère puisqu'elle n'a pas pu répondre à ce que nous disait Gérard Bailly, mais malheureusement là vraiment l'heure a tourné, notre débat s'achève. Merci à tous, Gérard Bailly, David Guèze, Franck Multon et Catherine Pellachaud. Vous trouverez sur le site de Sciences Publiques des références d'ouvrages et le site internet sur les clones virtuels et sur le blog de l'émission. Vous pouvez publier vos questions et réflexions sur les thèmes de nos futures émissions. Très rapidement, le 22 juin, lendemain de la fête de la musique, nous nous pencherons sur la synthèse de la voix, une fonction qu'attendent sans doute avec impatience les jumeaux numériques et autres clones virtuels. Le 29 juin, nous reviendrons au corps humain en chair et en os pour demander à nos invités si l'on pourra bientôt remplacer certains membres par des prothèses bioniques dotées de muscles artificiels. Un espoir très important, sans doute pour toutes les victimes, civiles et militaires, des guerres et autres accidents de la route. Enfin, le 6 juillet, nous nous interrogerons sur la biométrie et sur les dangers potentiels de cette technique d'identification des personnes à l'aide de caractéristiques corporelles. Le Conseil consultatif national d'éthique, vient en effet de rendre un rapport très critique sur ce sujet. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, je vous rappelle que nous attendons à la fois vos questions sur les thèmes de nos prochains débats et vos suggestions de sujets. Vous pouvez également y réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Brigitte Alléo avec Jacques Vincent à la technique. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges. Pour l'instant, il sera très bientôt 15h sur France Culture et nous vous laissons en compagnie de Toufik Hakem pour Triple Détente. Merci à tous et à vendredi prochain.